France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, et si on remaniait aussi la démocratie ? Question posée alors que depuis 10 jours, il est surtout question du choix du futur ministre de l'Intérieur et des équilibres au sein du gouvernement. Alors, bien évidemment, on va y revenir, car c'est l'actualité politique du moment, qu'elle nous intéresse et qu'elle pose de vraies questions sur la réalité d'un pouvoir très présidentiel qui se veut et de droite et de gauche. Mais on va aller au-delà également et se demander si le coup de balai survenu il y a un an et demi était un vrai renouvellement ou uniquement un ravalement de façade, si le nouveau monde de la Macronie est plus démocratique que l'ancien. On se demandera aussi si les projets du chef de l'État pour réformer les institutions sont à la hauteur des enjeux, si la place accordée à l'opposition, aux corps intermédiaires, aux élus locaux est suffisante face à un pouvoir jupitérien à tendance verticale. Et puis surtout, on s'interrogera sur la participation des citoyens à la vie du pays dans ce qui se veut une start-up nation. Avec nous pour en parler, le politologue Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur chez Robert Laffont de Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie. C'est il y a 2 ans, mais c'est toujours valable. L'historien des idées Pierre Rosanvallon, qui s'interroge depuis très longtemps sur la notion de démocratie à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages, je ne peux même pas les citer. Rebonsoir Pierre Rosanvallon.
Bonsoir.
Puisque vous êtes notre grand témoin ce soir. À nos côtés également, Romain Slitine, bonsoir.
Bonsoir.
Co-auteur d'un essai intitulé Le coup d'État citoyen, c'est aux éditions La Découverte. Vous êtes fondateur, je le précise, de Système D, premier incubateur d'innovation démocratique en France. Vous nous direz de quoi il s'agit. Je rappelle le numéro du standard pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, le 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et pour un premier appel, c'est André qui nous appelle de Paris. Bonsoir André.
Bonsoir.
Bienvenue
André.
À vous.
Oui, merci beaucoup André Fertil, président de Sémaphore. Je suis très heureux de pouvoir poser une question à Pierre Rosanvallon, que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'avais eu le plaisir d'échanger sur les politiques de ségrégation culturelle à l'encontre des personnes âgées dans les EHPAD et à l'encontre des personnes handicapées. Alors la question, c'est à l'heure où on s'interroge sur les difficultés de fonctionnement de la démocratie, où on propose souvent finalement de mettre l'accent sur la démocratie participative, je pense à un slogan de mai 68, vous avez évoqué mai 68 tout à l'heure, qui me semble intéressant, sur lequel nous devons sans doute méditer. Ce slogan, c'était « Les dictatures, c'est ferme ta gueule, et les démocraties, c'est cause toujours ». Parce qu'en fait, je m'interroge, parce que comme je participe beaucoup à des instances comme les conseils de quartier, les conseils locaux du handicap, de la santé mentale, des conseils nationaux sur diverses thématiques, et j'ai le sentiment que souvent, la plus-value est peut-être en termes de politique de communication pour, dans certains cas, l'État ou les collectivités territoriales, mais c'est peut-être pas évident qu'il y ait une grosse plus-value en termes de démocratie. Et donc, qu'en pense Pierre Vallon ? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le fonctionnement de ces instances, enfin de ces dispositifs de démocratie participative ? Merci beaucoup.
Merci beaucoup André pour cette question. On va donc donner la parole en premier à Pierre Rosanvallon et ensuite ce sont nos autres invités qui réagiront.
Vous avez raison de vous interroger sur cette notion de démocratie participative. On l'avait portée au nu et on en revient un petit peu maintenant. Pourquoi ? Ben, par exemple, dans toutes les grandes villes de plus de 200 000 habitants, on a instauré en 2000 des groupes de quartiers. Mais quel est le problème ? C'est qu'il y a un tout petit nombre de personnes qui participent. Il y a moins de 1% des citoyens qui participent à ces expériences de démocratie participative quand elles sont instituées légalement, ce qui est le cas dans les villes de 200 000 habitants ou volontaire, sur une base volontaire dans d'autres cas. Et je crois que c'est parce qu'on a voulu que la démocratie participative, elle singe en quelque sorte la démocratie représentative déjà existante. À l'âge d'Internet, il faut trouver d'autres formes de délibération, il faut trouver d'autres formes d'expression. Et c'est cela qui est en cause aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de remettre en cause la représentation et d'élargir la participation, il faut que les prises de parole soient différentes. La démocratie, c'est d'abord prendre la parole. Mais on prend la parole de beaucoup de façons. On peut prendre la parole en organisant des médias. On peut prendre la parole par des manifestations. On peut prendre la parole dans des réunions.
Les réseaux sociaux. Et
sur les réseaux
si
sociaux.
Les gens prennent la parole
je pense
sur les réseaux
plus
sociaux.
Que il faut donner un écho à toutes ces paroles démultipliées. Pour qu'elle ne soit pas non plus, c'est ça le grand problème, la cacophonie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles dans tous les sens, mais ça fait du bruit et pas simplement des expressions qui sont raisonnées. Il faut des filtres, il faut des moments où les choses se rencontrent et permettent véritablement l'expression.
Romain Slitine, fondateur, je le disais tout à l'heure, de Système D, incubateur d'innovation démocratique. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là et est-ce que vous participez justement à cette démocratie participative ?
Alors oui, tout à fait. Système D donc, est un incubateur qui a été porté par l'association Démocratie Ouverte qui rassemble des innovateurs démocratiques, des civic tech, des élus qui veulent vraiment faire des propositions et des actions très concrètes pour modifier, faire évoluer, transformer, améliorer notre démocratie. Donc Système D, c'est un incubateur, c'est-à-dire qu'on identifie une dizaine de projets chaque année et on leur donne les moyens eh bien, de véritablement peser dans leur développement pour pouvoir à la fois mobiliser plus de citoyens et pouvoir faire des propositions très concrètes d'évolution démocratique. Je rejoins ce que disait Pierre Rosanvallon sur la question de la démocratie participative qui est finalement institutionnalisée pour beaucoup. C'est-à-dire que c'était une offre, comme le disait Guillaume Gourgues, une offre institutionnelle de démocratie qui finalement rencontre peu l'écho des citoyens. Mais moi, je me suis aussi intéressé à des initiatives qui sont aussi de démocratie participative un peu plus, je dirais, moderne ou plus ambitieuse, surtout politiquement. On peut déjà penser au budget participatif qui revient en force, en particulier dans des grandes villes comme Paris. On critique beaucoup actuellement la ville de Paris, mais je trouve que le système de budget participatif qui propose 5% du budget d'investissement, ça fait 500 millions d'euros sur la mandature, c'est pas rien, confié à des citoyens, ça permet une vraie démocratie participative avec décision. Et je pense à un autre exemple qui est à Grenoble. Mais c'est un exemple que je voudrais juste développer une seconde parce que c'est là où on voit la difficulté aussi avec les institutions traditionnelles. Grenoble a instauré un dispositif d'interpellation et de votation citoyenne. L'idée, c'était quoi ? C'était de se dire 2000 citoyens peuvent faire une pétition et demander au conseil municipal de prendre une décision. Ensuite, si cette décision, soit elle est adoptée directement par le conseil municipal et donc elle est mise en œuvre, si le conseil municipal décide de ne pas la mettre en œuvre, eh bien, il s'engage à organiser un référendum. Si 20 000 citoyens disent oui, eh bien, cette décision est automatiquement mise en œuvre. Ce qui est très intéressant parce que ça permettait une initiative citoyenne réelle et des décisions. Sauf que cette innovation démocratique a été attaquée par le préfet. Et donc, aujourd'hui, on est dans un vide juridique. Donc, toutes ces innovations de démocratie participative un peu ambitieuses doivent aussi s'articuler avec notre démocratie et notre constitution. On y reviendra certainement.
Bien sûr. Brice Teinturier, sur cette question de la démocratie participative, est-ce que disait Pierre Rosanvallon sur le fait que les citoyens ne répondent pas toujours aux offres qu'on leur propose ? Parce que c'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est pas toujours évident de s'engager comme ça.
Non, mais c'est effectivement la grande difficulté et il faut la mettre en regard avec le malaise démocratique. Juste un chiffre, on a aujourd'hui 72% de Français qui nous disent, qui considèrent que le système démocratique fonctionne mal et que leurs idées ne sont pas bien représentées. Donc ça, c'est le constat, il est ancien, il est assez terrible. On a aussi des indicateurs sur la démocratie elle-même qui nous montrent à minima qu'il y a une forme de déconsolidation démocratique. Une fois qu'on a dit ça, cela devrait ouvrir un champ très large à d'autres formes démocratiques, participatives et autres. Et la difficulté, c'est que il n'existe pas de démocratie, quelle qu'elle soit, participative ou pas, qui ne soit organisée. Donc c'est vraiment l'organisation d'un espace délibératif, l'organisation de la distribution de la parole et des initiatives qui doivent être faites. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, on est dans la cacophonie, dans une sorte de bouillonnement, certes sympathique, mais qui ne débouche pas. Et dès qu'on est sur des formes un peu plus organisées, on se rend compte que ce sont un peu toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes, effectivement, qui vont dans des réunions où ils peuvent s'exprimer.
Qui sont déjà militants dans telle association.
Voilà, qui
ou
sont
dans telle
plutôt,
autre.
Malgré tout, intéressés par la politique. Et on n'arrive pas à capter ceux qui se désengagent de plus en plus. Et je pense qu'il faut déjà prendre acte de ce constat, de cette difficulté à élargir, y compris par des formes dites plus participatives, mais à élargir l'organisation d'une délibération, d'une participation accrue des Français, alors même que c'est ce qu'ils réclament, en tous les cas, alors même qu'ils pointent le fait qu'ils se sentent mal représentés. Et là, personne n'a trouvé la solution. Il y a énormément d'initiatives, et tant mieux, mais on arrive très difficilement, je trouve, à élargir de manière satisfaisante ces demandes participationnistes ou participatives accrues.
Pierre Rosanvallon. Il y avait tout de même une idée qui avait été émise à un moment, c'est de dire qu'il faut, un petit peu fédérer toutes ces initiatives, toutes ces expérimentations, parce qu'il n'y a pas simplement une bonne solution, il y a beaucoup de choses à essayer. Et une idée qui avait germé, c'était de dire, ben, pourquoi pas transformer le Conseil économique et social et environnemental, dont on voit bien qu'il est un petit peu essoufflé, pourquoi pas en faire une maison des citoyens qui serait une maison des initiatives, des expérimentations, voire parfois de délibérations en vue de référendum. Et celui qui est maintenant responsable de la réflexion sur les retraites, Monsieur Delvoye, avait été président du Conseil économique et social et environnemental, et à un moment, le président de la République avait dit qu'il envisageait une grande réforme de ce Conseil économique et social, et ça ne semble pas venir. Ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas lancer des expérimentations, il faut qu'il y ait des endroits qui soient des caisses de résonance, des caisses d'organisation, et c'est pour ça qu'une grande maison des citoyens, qui aurait été la maison des expérimentations démocratiques, je pense que ça aurait été une idée à poursuivre, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle était un peu mise de côté.
Rodolphe est au standard de France Inter, il nous appelle du Gard, peut-être, c'est ça, Rodolphe ?
Oui, en effet, oui.
Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir.
Rodolphe.
Voilà, donc je viens d'entendre avec attention l'intervention de vos invités sur la démocratie participative et le fait que c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours le temps. Et à mon avis, c'est bien pour ça qu'a été inventé le concept de représentation. Par contre, les limites de la représentation aujourd'hui, c'est qu'on a, alors c'est vraiment un marronnier, comme diraient les journalistes, plusieurs strates de décision et de pouvoir. Et si vous demandez à un citoyen dans la rue, tel point dans votre vie quotidienne, qui s'en occupe ? Est-ce que c'est la municipalité ? Est-ce que c'est l'agglomération ? Est-ce que c'est le département ? Eh bien, je vous mets au défi d'avoir des réponses homogènes. Et je pense que dans la démocratie, elle est abîmée quand on ne sait pas qui décide de quoi. Or, aujourd'hui, alors on en parle depuis longtemps, mais moi je constate qu'on a rajouté avec la loi MAPTAM une couche qui s'appelle les métropoles. En revanche, j'ai pas vu de simplification. J'ai vu le pouvoir décentralisé, soi-disant décentralisé des régions, se déporter avec la création des grandes régions, parfois à des dizaines de centaines de kilomètres. Or, un des postulats de la décentralisation, c'était plus c'est proche du citoyen, plus la décision est proche du citoyen, meilleure elle est. Bon, ça s'est battu en brèche. Après, évidemment, on a la strate européenne. À l'intérieur même de l'appareil d'État, on a différentes échelons de pouvoir, hein, parce que l'État, c'est pas un monolithe. Hein. Il y a l'État central, il y a l'État déconcentré régional, l'État déconcentré départemental. Et donc, moi, je livre à la réflexion de vos invités l'idée que on ne fera pas l'économie à un moment donné, si on veut redonner de la vivacité à la démocratie, de simplifier
le millefeuille
d'une manière ou d'une autre.
Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette interpellation. Brice Teinturier.
Je crois que vous rappelez quelque chose d'extrêmement important, qui est que la démocratie représentative, c'est aussi à la base une habilitation à prendre de la décision. On confie ce pouvoir de décision à d'autres à partir d'un processus de sélection et d'élection. Mais le point qui est effectivement important, c'est qu'il ne suffit pas simplement de participer, il faut aussi qu'il y ait de la décision. S'il y a aujourd'hui une critique forte de ce mécanisme qui avait bien fonctionné pendant environ un siècle, je confie à des représentants le soin de prendre de la décision à ma place, c'est parce que la question de la compétence de ces représentants est de plus en plus questionnée, ça c'est la crise du résultat, et également parce qu'on considère que au-delà de leurs compétences supposées ou de leurs insuffisantes compétences, ils ne parviennent pas à fabriquer un processus de décision qui engendrerait un mieux-être pour la société. Donc quand on raisonne sur la démocratie participative ou sur tous les autres éléments, je pense qu'il faut vraiment ajouter au mot « participer », »,« délibérer », etc., prendre de la décision. Et c'est ça qui manque aussi très souvent dans ces assemblées, quelles qu'elles soient, où on participe, où on discute, où on essaie d'élaborer, c'est le suivi, le processus de décision. Et si ça s'essouffle, si ça ne débouche pas suffisamment, cette démocratie participative, c'est pour les raisons que vous avez indiquées, pour les raisons de complexité, pour les raisons de flou sur qui décide de quoi, et aussi parce que on n'arrive pas à constater puissamment, réellement, ce que cette délibération qui se fait donc ailleurs que dans les mécanismes traditionnels a permis d'apporter de plus. Alors ça se voit davantage au niveau local, mais c'est encore insuffisant pour engendrer un mouvement qui supplierait à la supposée déficience de la démocratie représentative.
En Romain Sétine.
Je pense que c'est le cœur du problème, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il faut que les citoyens puissent décider. Mais il y a beaucoup d'expériences en France et dans le monde qui montrent que c'est possible. Je peux penser à l'Estonie qui a fait un processus justement où le président s'est fait, suite à la crise en 2013, une crise très importante financière, s'est fait un peu le porte-parole des citoyens en organisant une consultation et ensuite en faisant remonter les décisions des citoyens au Parlement. Et donc un certain nombre de voix, de lois ont été votées. On pense évidemment à ce qui s'est passé en Irlande en 2013, où il y a eu une réforme constitutionnelle faite par des citoyens tirés au sort et des 66 citoyens tirés au sort et 33 professionnels de la politique qui ont abouti à des réformes constitutionnelles, institutionnelles importantes. Mais on peut aussi trouver une place importante du citoyen dans la décision ou dans la codécision en France. Par exemple, quelque chose qu'on ne connaît pas assez, mais il est possible aujourd'hui, grâce à la plateforme Parlement et citoyens, d'associer véritablement les citoyens à la fabrique de la loi.
Ça s'est passé pour la loi numérique.
Exactement, d'Axel Le Maire, en 2015. Comment ça se passe? Eh bien, la ministre, en l'occurrence, mais ça peut être aussi un parlementaire, met sur la plateforme Parlement et citoyens le projet de loi, en l'occurrence, met l'ensemble des documents nécessaires, une petite vidéo explicative, et puis ensuite, pendant plusieurs semaines, il y a un certain nombre de contributions citoyennes sur la plateforme, avec un système de vote qui permet de faire remonter les contributions et les amendements les plus parlants. Mais ce qui est intéressant, je ne vais pas détailler tout le processus, mais à la fin, eh bien, la loi a été véritablement modifiée. Il y a 5 copier-coller d'amendements citoyens et une dizaine d'articles qui ont été modifiés. Donc, c'est vraiment des choses qui marchent. Moi, je suis assez optimiste sur les solutions. Il faut juste qu'elles prennent de l'ampleur.
Pierre Rosanvallon.
Les solutions ne sont pas simplement, je crois que vous avez raison, de saluer des expérimentations de ce type-là. Mais il faut bien voir aussi que la question n'est pas simplement de rendre le citoyen plus proche de la décision. Parce qu'il y a énormément de décisions qui se prennent en permanence. Et on ne peut pas faire des référendums tous les soirs. Vous savez, à un moment, on parlait de la démocratie électronique. Mais aujourd'hui, on pourrait dire tous les soirs à 20h, il y a les 35 référendums de la journée. Techniquement, ce serait possible. Mais ce serait une démocratie qui exploserait, qui irait dans tous les sens, qui serait finalement pas tant démocratique qu'incohérente. Et je crois que ce qui est très important aussi, c'est qu'on rende des comptes. Vous voyez, par exemple, on citait tout à l'heure le millefeuille. Les intercommunalités, maintenant, ont un rôle de plus en plus important. C'est elles qui décident de la mobilité, des transports, de tout un ensemble de politiques, de l'environnement. Mais ils ne sont pas élus, les intercommunalités. Mais en revanche, les démocratiser, c'est pas la démocratisation, c'est pas forcément multiplier les élections. La démocratisation, c'est obliger les institutions à rendre des comptes, à agir de façon transparente, à être responsable, à quelque sorte à remplir le programme qui dit la démocratie, c'est le régime qui oblige à s'expliquer et à dire ce que l'on fait. Le citoyen ne peut pas être électeur tous les jours, mais tous les jours, il pourra avoir une fonction de contrôleur. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut aller, me semble-t-il.
Alors, Pierre Rosanvallon, il y a une réforme institutionnelle en cours, à la fois institutionnelle et constitutionnelle. Est-ce qu'elle répond aux enjeux du moment sur ce point? Elle a été laissée de côté au mois de juillet, on se souvient, à cause de l'affaire Benalla, et ça devrait normalement reprendre bientôt, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron la semaine dernière.
Personnellement, j'ai été surpris de voir que les enjeux et les objectifs de cette réforme était finalement extrêmement limitée. C'est-à-dire mettre un petit peu de proportionnel, réduire le nombre de parlementaires. On est véritablement dans des petites réformes. Alors que le progrès démocratique, c'est donner davantage, démultiplier les formes de représentation, donner des formes de contrôle plus grandes, rendre la politique plus lisible, alors que souvent elle est illisible. Vous voyez, par exemple, on parle souvent du déficit démocratique européen. Mais quel est le problème de l'Europe? C'est pas tellement qu'il n'y ait pas assez d'élections, il y en a déjà. Mais le problème, c'est que c'est une boîte noire qui ne s'explique pas, qui ne rend pas de compte. Il y a un grand théoricien politique qui disait « Il ne suffit pas de donner de la voix au peuple, il faut organiser l'œil du peuple. » Que le peuple ait l'œil sur les affaires publiques. Et c'est cela aujourd'hui qui fait défaut, et je pense que je regrette que ce projet de réforme constitutionnelle soit uniquement un projet de réforme, je dirais, instrumental, mais non pas du tout touchant le cœur de la vie démocratique.
Surtout qu'en plus de ça, Brice Teinturier, pour ce qui est du travail parlementaire, on veut encore rationaliser tout ça, réduire les navettes, etc., réduire encore le rôle du Parlement au profit de ce président dont on attend tout. Il n'y a qu'à voir, là aujourd'hui, on est tous suspendus à sa décision concernant le remaniement. C'est déjà très vertical, ça risque de l'être encore plus.
Vous avez ouvert cette émission en disant il y a le remaniement, mais on va parler du coup plus profondément de la démocratie. Et on voit bien à quel point les deux questions sont totalement liées. Encore plus avec ce président dont la promesse essentielle, je crois, au cours de la campagne, si on essaye de se dire quelle est la promesse du candidat Macron, comme on a pu le dire, qui a été la promesse de Nicolas Sarkozy ou la promesse de Jacques Chirac. Il me semble que c'était « je vais débloquer ce pays » en faisant de la politique autrement et notamment en m'appuyant sur la société civile. Et ça, c'était un diagnostic qui était juste par rapport au ressenti des Français, ce besoin d'une société bloquée, ce sentiment que les Français en réalité avaient eux-mêmes les solutions et que c'était le haut qui bloquait les solutions, et que si on faisait de la politique autrement, on allait pouvoir y arriver, mais en s'appuyant sur la société civile. Et le paradoxe et la difficulté, je pense, de la situation du président aujourd'hui, c'est que ce n'est pas très compatible avec une présidence jupitérienne, ce n'est pas très compatible avec une pratique où les corps intermédiaires ne sont pas à ce point reconnus ou légitimés, et c'est cela la contradiction initiale. Donc il y a les problèmes de réforme, de résultats, de contestation, notamment l'enjeu du pouvoir d'achat et de la fiscalité dans ce qui est reproché à Emmanuel Macron, mais je crois en réalité que derrière tout cela, le cœur de la difficulté, c'est bien notre débat de ce soir. C'est cette promesse sur la démocratie et c'est une pratique, que ce soit dans la réforme à venir de la Constitution, des institutions ou dans la façon d'exercer le pouvoir, qui n'est pas en accord avec ce qui avait été ressenti comme étant un diagnostic juste et important.
Voilà, et puis surtout qu'il y a le pouvoir politique et puis il y a les autres pouvoirs, et là-dessus, Gilles de Sevran est en ligne avec nous. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, c'est un témoignage en fait. J'habite une ville de Seine-Saint-Denis qui a mis en place en 2001 de façon très très volontaire des comités de quartier, dont je me souviens assez pour y avoir participé de près qu'ils réunissaient beaucoup de monde parce qu'il y avait un succès de curiosité au départ. On voulait voir un peu comment justement cette chose-là se passait. Je pense que du côté municipal, il me semble en tout cas pas mal d'élan, de volonté. Mais le résultat au bout de quelques années a été clair, c'est que la désertion a été progressive et maintenant, c'est disons que pour avoir 30 personnes dans une réunion de quartier, faut vraiment ramer. Donc moi c'est un constat, c'est une photographie, mais moi je la mets en lien avec quelque chose qui me semble, bon, c'est peut-être pas la réalité de Sevran qui explique ça. C'est une ville qui a subi de plein fouet la mondialisation avec des fermetures d'entreprises et qui maintenant a un revenu par habitant tellement faible que l'impôt local, je crois, n'est plus perçu que par versé que par très peu de contribuables. Il y a en fait une citoyenneté qui a tout simplement un peu disparu et qui est concomitante avec une perte de pouvoir économique absolument totale dans cette ville. Et moi, je m'étonnais un peu de ce que ce gigantesque transfert de pouvoir qui s'est fait au bénéfice de l'économie ces 30-40 dernières années, de l'économie, je dirais même néolibérale pour mettre un nom dessus, ce transfert-là a été pour moi absolument catastrophique pour justement cet esprit de participation à la citoyenneté. Je pense qu'on peut sans problème se dire que il y a eu une concomitance entre la perte de substance démocratique dans nos sociétés et l'absorption absolument totale de toutes les manettes et de tous les leviers de pouvoir par l'économie néolibérale depuis 30-40 ans.
Merci.
Voilà, c'était ça en fait ce que je voulais
merci, amener. Merci beaucoup Gilles. Quelle est la place pour la démocratie dans un monde dominé par l'économie? On peut poser la question comme ça. Qui veut répondre? Romain Slétine.
Bah, c'est évidemment la démocratie, c'est la rencontre, la confrontation de différentes forces, de différents pouvoirs. Donc évidemment, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir économique qui est souvent organisé par ce qu'on appelle des lobbies, mais ça peut être aussi des lobbies d'intérêt général, des associations. Donc il y a vraiment une rencontre. Et de l'autre côté, l'enjeu, c'est aussi d'avoir un lobby citoyen. Un lobby citoyen qui, parfois, et je ne fais pas du tout l'apologie forcément de la l'intelligence absolue des citoyens, mais c'est intéressant aussi qu'il y ait ce contre-pouvoir qui peut être organisé, justement, et qui a la possibilité d'intervenir dans le débat public très concrètement. Je reviens juste sur...
Il y a des gens
la...
qui s'interrogent là-dessus, hein, notamment en matière d'environnement, hein, c'est très actuel comme
c'est très actuel,
sujet, le lobby citoyen. Hein.
Exactement, la question démocratique, la question environnementale, enfin finalement, l'environnement, la question écologique est en train justement d'incarner très concrètement l'urgence aussi des transformations démocratiques, parce qu'on ne peut pas simplement prendre conscience de la crise et de la crise écologique sans se dire qu'en tant que citoyen, on doit pouvoir agir.
Pierre Rosanvallon.
Ce qu'on peut dire d'un mot aussi, c'est qu'à travers ces questions-là que vous soulignez justement, les problèmes écologiques par exemple, ou les problèmes d'emploi l'auditeur vient de signaler, c'est surtout le changement d'échelle de la démocratie. C'est-à-dire que si on dit que l'économie prend le pas, c'est pas simplement que l'économie prend le pas, c'est que l'économie règne au niveau international, alors que la démocratie est nationale.
Et les citoyens ont tendance à se dire on ne peut rien contre ça.
Oui, mais ça n'est pas tout à fait vrai, parce que prenons par exemple le problème des paradis fiscaux. Eh bien, on a vu que dans les 10 dernières années, il y avait eu bien des progrès qui avaient été faits pour diminuer le pouvoir des paradis fiscaux. On a bien vu que des grandes ONG comme Transparency International, comme Anticor, ont permis de faire pression, et les citoyens, on a bien senti que les citoyens étaient derrière eux, pour faire reculer la Suisse, par exemple, ou pour faire reculer le Luxembourg, ou pour faire reculer bien d'autres paradis fiscaux dans le Panama, même récemment. Donc je pense qu'on ne peut pas imaginer une démocratie internationale en disant qu'il va y avoir un gouvernement mondial. La démocratie, là, c'est pas cela. Ça n'est pas transférer au niveau international les formes de démocratie nationale. Mais la démocratie veut dire à ce moment-là organiser le pouvoir de pression des citoyens sur les gouvernements, organiser la discussion publique, organiser l'information, que tout le monde prenne conscience de ce que sont les enjeux et aide son pays à faire pression pour aller dans le bon sens.
Et aller rendre compte aussi. Emmanuel Macron s'y était d'ailleurs engagé à le faire une fois par an. Je ne sais pas très bien où ça en est tout ça. Brice Teinturier.
Tout à l'heure, Pierre-Rosanvallon a évoqué la question de la responsabilité, qui est un concept clé dans la démocratie. Si on ne peut pas identifier qui est responsable de quoi, on ne peut pas sanctionner ou renouveler ceux qui ont en charge une partie des affaires publiques. Et c'est exactement ce que vous disiez, monsieur Assevran. À partir du moment où il y a des logiques économiques massifiées, mondialisées, on a de plus en plus de mal à identifier qui est responsable de quoi dans ces logiques. Ça vaut également pour l'environnement. Finalement, est-ce que l'individu a sa part de responsabilité? Est-ce que ce sont les industriels? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est... Que sais-je encore? Et c'est ça qui conduit ensuite au retrait, au sentiment qu'on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on n'a pas identifié qui était responsable de quoi. Donc la réalité, c'est qu'il faut impérativement distribuer ce que les différents acteurs font, répartir les responsabilités pour que les citoyens puissent mieux les identifier et donc effectivement puissent se mobiliser aussi pour sanctionner, pour appuyer, pour contester ou pour au contraire renforcer.
Alors je voudrais qu'on parle un instant de ce qui s'est passé à l'Assemblée hier. Il se trouve que Maurice vient de nous envoyer un message sur franceinter.fr. Il dit « Parlons de notre démocratie ». Le groupe La République En Marche a carrément bloqué un projet de loi. Enfin, c'était pas un projet de loi, hein, je précise que c'était une proposition du groupe LR concernant les personnes handicapées, bloquant tout simplement le débat à l'Assemblée. C'est là que François Ruffin s'est fâché très fort et je pense qu'on devrait pouvoir réentendre l'intervention de François Ruffin. C'était donc hier au Palais Bourbon.
Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 euros, 700 euros, sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradier propose d'élever un peu leur statut. Et nous avons, nous, les insoumis, mais également les communistes, les socialistes, les UDI, les républicains, nous avons déposé des tas d'amendements en commission. Vous, les marcheurs, aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contentés en troupeau de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil.
Voilà, c'était donc François Ruffin sur ce cavalier parlementaire, cette niche, c'était une niche pour LR, et finalement personne, enfin tout le monde a suivi, sauf le groupe La République En Marche. Pierre Rosanvallon.
Ça montre une chose très très de façon caricaturale dans ce cas-là, et le coup de gueule, si je puis dire,
oui, c'est un
de
coup
Ruffin
de gueule,
était salutaire pour cela, c'est de montrer que le rôle d'un Parlement, c'est de délibérer. Mais le Parlement est organisé théoriquement pour la délibération, mais pratiquement pour le face-à-face seulement. Et du coup, la discipline parlementaire, là, c'est un cas caricatural. La discipline parlementaire a joué de façon lamentable, je dirais. Mais en général, c'est le problème qui se pose. La discipline parlementaire empêche la véritable délibération. Et c'est pour cela que la délibération, elle doit naître dans le pays. Le Parlement, l'idéal du Parlement, c'était un endroit où des gens de bonne volonté venaient et discutaient à haute voix de l'intérêt général. C'était l'agora. Non. Là, le Parlement, c'est l'organisme qui est là pour critiquer le gouvernement ou pour le soutenir. Le Parlement ne fait plus véritablement la loi. Le Parlement ne délibère plus. Le Parlement soutient ou accuse.
Question peut-être, Romain Slétine, parce que Marc aussi nous écrit sur franceinter.fr et il dit « Pourquoi ne pas revenir à la démocratie athénienne et tirer au sort les votants parmi la population, tout comme dans les jugements d'assises ?» On a plusieurs questions. Serait-il possible aussi, ça c'est Ève qui nous demande, de rédiger une constitution, de la faire rédiger par des citoyens tirés au sort. C'est une bonne idée ou pas, ça?
C'est une bonne idée, je pense. En tout cas, ce qu'on peut voir sur la réforme constitutionnelle, juste un petit commentaire, c'est que les citoyens qui va être discuté, les citoyens ne sont nullement consultés là-dedans. Et donc, il est tout à fait possible de le faire. Il y a eu l'exemple majeur, en tout cas assez connu en Islande, où des citoyens ont pu réformer la constitution, faire une proposition de réforme constitutionnelle de A à Z suite à la crise de 2008. Et ils sont allés, donc, à la fois, il y a eu des élus, 23 élus qui devaient être des citoyens ordinaires, qui ont délibéré pendant plusieurs mois et qui ont fait ensuite une proposition de nouvelle constitution qui a été ensuite soumise au référendum qui a été adopté. Techniquement, elle n'a pas été mise en œuvre parce que le Parlement a bloqué, mais c'est tout à fait possible. On a vu ça aussi, j'en parlais tout à l'heure, en Irlande, où il y a aussi la possibilité, il y a eu des citoyens tirés au sort qui ont réformé la constitution. Donc, c'est vraiment possible si on fait confiance aux citoyens. Mais pour cela, c'est pas tout le monde, tout le temps, ça s'organise, on l'a dit, ça s'organise. Donc il faut effectivement une méthode, il faut des moyens, il faut du temps, il faut de la délibération et il faut un peu d'expertise. Si on mixe tout ça en inventant, eh bien, il est possible d'avancer.
Je voudrais qu'on aille pour la dernière fois au standard du téléphone sonne parce que l'heure tourne. Michel nous appelle du Tarn. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Je crois que ça fait un petit moment que vous attendez. On vous écoute.
C'est un témoignage à partir de l'expérience. Hein. On n'a pas de vision dogmatique. Je fais partie d'une petite association qui s'appelle la CEPRA, S-E-P-R-A 81, vous voyez le terme. Et donc, les gens pourront se renseigner là-dessus. Et en fait, on s'est aperçu à l'expérience, on ne faisait aucun procès d'intention, que vis-à-vis des gens élus, il était extrêmement difficile de faire passer des questions environnementales. Bon, c'est peut-être dû qu'on est mal placé, hein, c'est pas un hasard qu'il y a eu le problème de Sivens, mais disons, donc on est pour, disons, initiative, disons, citoyenne. Et tout le problème est justement qui a l'initiative. Hein, on le voit déjà au niveau parlementaire, si c'est le gouvernement ou si c'est les députés. Et l'initiative citoyenne, simplement ce que je voudrais dire, c'est qu'elle est possible dans le cadre de la Constitution actuelle avec l'article 11, qui dit que pour des projets importants, hein, il ne s'agit pas de mettre le balayage des crottes de chien ou des choses comme ça, si on a 10% des inscrits et 20% des sénateurs, sénatrices et députés, la question est mise à référendum. Après ça, les gens, disons, votent.
Michel, je suis obligé de vous presser parce qu'il est déjà 55.
Oui, mais c'est très simple. Hein. Et donc, en fait, c'est un système qui est un peu qui existe dans d'autres pays, en Suisse, en Californie.
On va poser la question, Michel. Premier juré, je suis obligé de vous arrêter parce qu'on n'a plus que 3 minutes et il faut qu'on fasse un dernier tour de table. Alors, cet article 11 sur le référendum, Pierre Rosanvallon.
Il existe effectivement. C'est dans la réforme constitutionnelle de 2008 et c'est le Conseil économique et social qui joue un rôle clé puisque c'est à lui que sont transmis. Et le Conseil économique et social aurait eu la possibilité d'utiliser cet article parce que il y a eu une pétition qui a été portée, qui avait le nombre de voix.
C'était sur la Poste, me semble-t-il.
Non, c'était ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Et comme c'était un sujet de société sensible, le Conseil économique et social a préféré se défausser. Mais il aurait pu, techniquement, il aurait pu recevoir cette proposition et être à l'origine du lancement d'un référendum citoyen sur le sujet.
Sur le mariage pour tous.
Donc une possibilité technique dans la Constitution actuelle.
Brice Teinturier, peut-être un dernier mot, on va faire un dernier tour de table, on n'en a plus que 2 minutes. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait essentiel pour une meilleure démocratie, pour un meilleur fonctionnement? Et vous avez à peu près allez, 50 secondes, 45.
Non, je n'arriverai pas à répondre à une telle question en 45 secondes. En revanche, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur la question du tirage au sort.
Oui.
Parce que je crois que c'est la fausse bonne idée, justement. Et que autant pour, de manière ponctuelle, vous pouvez tirer au sort des citoyens pour participer à des jurys populaires, autant quand il s'agit de politique, vous ne pouvez pas obliger des individus à être des représentants, s'ils ne le souhaitaient pas, pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et c'est quand même cela qu'il faut. Et dans la démocratie, il faut que des gens s'engagent sur des offres qui soient claires et distinctes, qu'ils puissent être sanctionnés. Et du coup, le véritable problème, à mon avis, est en amont de la sélection de ces représentants. Mais la solution n'est pas dans le tirage au sort. Ça paraît séduisant de cette façon. Je crois que ce n'est pas adapté, que ce serait qu'on se fourvoierait si on pensait sauver la démocratie en tirant au sort les représentants. Donc je n'ai pas la solution miracle au problème de la démocratie, mais il me semble au moins qu'il faut écarter les...
La question du tirage au sort.
Oui, les idées séduisantes apparemment, mais qui conduisent à des impasses.
Romain Slitine, une conclusion de votre côté en 30 secondes.
Alors oui, bon, on est dans un débat. Moi, je crois au tirage au sort parce que je pense que c'est pas la seule manière, c'est pas la panacée, mais c'est une possibilité d'identifier des citoyens qui vont pouvoir prendre des décisions sans avoir la pression de l'élection ou de la réélection, donc qui peuvent justement prendre des décisions sur le long terme. Donc je pense que c'est intéressant à explorer, en tout cas. Je dirais peut-être 2 autres choses à ouvrir comme piste. Continuer les collaborations entre élus et citoyens, j'en parlais tout à l'heure, les plateformes numériques le permettent. Le droit d'initiative citoyenne est possible, doit être renforcé. Et enfin, toutes les questions de transparence, j'arrête.
Et le mot de la fin sera pour Pierre Rosanvallon.
Eh bien, il n'y a pas de one best way. Je crois que la démocratie, elle se nourrit de la multiplicité de ses formes et qu'il n'y a pas une démocratie idéale. La démocratie, c'est un processus qui doit toujours être soumis à discussion. La démocratie, c'est le régime qui n'arrête pas de discuter sur lui-même. Et c'est pour cela qu'il est bon d'en discuter.
Merci beaucoup Pierre Rosanvallon, merci beaucoup Brice Teinturier, merci beaucoup Romain Slitine. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui n'ont pas pu passer, à Michel que j'ai coupé un peu rapidement, mais on n'avait pas le choix tout à l'heure. Merci aux standardistes qui ont réceptionné vos appels. Merci aussi à Thomas Lehété qui a lu vos mails. À la technique ce soir, Patrick Henry, Philippe Duclos et Guillaume Roux.